Donc maintenant, Guillaume, nous allons passer au dossier donc de l'émission. Tu nous as ramené donc du son d'un débat qui s'appelait une loi antisexiste, mais pourquoi faire ?
Ouais, pourquoi faire ? C'était un peu l'intitulé de ce qu'avait organisé en fait Espace Marx, qui est un lieu proche du PC, mais qui est assez ouvert sur ce qui se passe dans le reste de la gauche française, et qui notamment sur les questions féministes organise régulièrement des débats. Et donc hier soir, donc dans le 13e arrondissement de Paris, un débat a été organisé autour de cette fameuse question de la loi antisexiste dont on a entendu parler, puisque le gouvernement, avec son projet de loi contre les discriminations et notamment contre l'homophobie, a essayé à le porter un amendement pour inclure les propos sexistes, ou au moins essayer d'encadrer dans la législation ces problèmes.
C'était d'ailleurs assez calamiteux, enfin il y a eu pas mal
de
réactions.
Oui, on va en entendre parler tout de suite d'ailleurs. Non, c'est juste pour recadrer que pour l'instant il y a juste un projet de loi qui est passé. Donc enfin il va y avoir la navette parlementaire, donc on en est encore loin d'aboutir. Simplement le propos des intervenantes, ça va être justement de recadrer un peu tous les enjeux qu'il y a derrière cette histoire longue d'un projet de loi antisexiste. Et donc on va commencer tout simplement par une brève introduction par Natacha Henry, et ensuite on reviendra justement sur cette histoire un peu de la loi antisexiste avec Anne Zelinski de la Ligue des droits des femmes.
Ce soir sur la loi antisexiste, parce que c'est un sujet qu'on avait un peu tous et toutes mis de côté, en tout cas de façon officielle, pendant pas mal d'années, et Anne qui va nous rappeler que ça fait au moins 30 ans que cette idée est quand même tout à fait d'actualité. Et en fait, en 2004, quelle ne fut pas notre surprise quand nous avons découvert que le gouvernement s'était tout d'un coup intéressé à la question aussi, sans doute sous la pression des associations. Et que finalement, on a vécu des suspens, des hauts et des bas depuis au moins 6 mois pour arriver maintenant à cette haute autorité de lutte contre les discriminations dans laquelle le projet de loi antisexiste et anti-homophobie a été, on peut dire, recyclé. Donc, je vais d'abord demander à Anne Zelinski, qui est professeure agrégée, présidente de la Ligue du droit des femmes, qu'elle a cofondée avec Simone de Beauvoir en 1974. Anne Zelinski, elle a beaucoup contribué à faire avancer la pensée sur cette affaire de loi antisexiste, puisqu'elle collaborait déjà avec Yvette Roudy à l'époque où Yvette Roudy avait envie de faire avancer cette affaire en 83. Et je fais de la pub un peu en avance, elle sort un livre en 2005 chez Catherine qui s'appelle « Histoire de vivre ». Alors peut-être Anne Zelinski pourrait nous faire un tableau historique de la situation, parce que la loi antisexiste n'est donc pas une idée du gouvernement Raffarin.
Voilà. Et en principe, on fait démarrer la loi antisexiste, enfin la proposition, le projet de loi de l'article de Beauvoir dans Le Monde en 1979. Or, cet article n'est pas tombé du ciel, dans la mesure où Beauvoir était notre présidente à la Ligue du droit des femmes. Et moi, je vais vous parler un petit peu d'abord de la préhistoire de cette loi, et du contexte dans lequel nous l'avons demandé, et de son sens. Alors, la Ligue du droit des femmes a été fondée en 1974 par donc Beauvoir et quelques féministes, dont Annie Sugier, Annie Cohen. J'insiste sur les noms parce que nous sommes si peu connus, sauf certaines, Vicky Colombé et moi-même. Alors, la Ligue du droit des femmes était née dans le sein, si j'ose dire, du mouvement de libération des femmes, mais se démarquer de lui. Je vous dirai rapidement comment. Alors, dès notre création en 1974, le 13 juin 1974, très exactement, j'ai des photocopies de l'article, s'il y en a qui s'intéresse, je pourrais leur en donner, nous avons publié dans Le Monde un article qui s'appelait « Pour une loi antisexiste », tel que. Et il était signé Marie-Louise Fabre, qui reprend les initiales MLF. Comme il était impossible à l'époque d'écrire sous un nom collectif, nous avions inventé ce personnage, MLF, Et derrière MLF, Marie-Louise, se cachait la Ligue du droit des femmes, une vraie histoire à tiroir. Alors, comment en étions-nous arrivés à l'idée de la loi ? Il y a un mot sur le contexte de l'époque. D'abord, le contexte extérieur et le contexte intérieur. Nous étions dans les années 70 et c'était le boom, si j'ose dire, à la fois de la libération sexuelle, entre guillemets, et de tout ce qu'elle a entraîné. C'est-à-dire que les images de type pornographique, jusqu'alors, étaient réservées au domaine privé. Les images salaces circulaient sous le manteau, on allait voir le cinéma couché, mais il n'était pas question d'envahir l'espace public avec ce genre de représentation mal vue. À partir de cette fameuse libération sexuelle, il y a eu invasion dans l'espace public de ces images réservées jusqu'alors à usage privé et intime. Alors, c'est comme ça qu'on a vu apparaître sur les pubs. C'est pas que les pubs n'étaient pas sexistes avant, mais elles étaient plus timides. Et ce qui nous a fait bondir en particulier, c'est la pub de Dim, la femme à quatre pattes, pour vendre des collants. Notre sang n'a fait qu'un tour, et nous nous sommes demandé comment on pouvait réagir par rapport à cette image. Alors, l'idée a germé de faire un autre manifeste, style manifeste 343, avec un texte très fort, comme on en faisait à l'époque, « Je ne suis pas la femme chienne, je ne m'étale pas », etc. Et notre idée était de le faire signer par des personnalités. Mais alors que le manifeste des 343 avait reçu un écho très favorable chez les personnalités, par contre, pas une n'a voulu le signer, parce qu'évidemment, leur carrière dépendait trop à la fois de l'image qu'on avait d'elles et des publicitaires. Donc, le bec dans l'eau, nous nous sommes dit, les petites tags, c'est bien beau, mais ça ne va pas très loin. Et l'idée d'une loi est née ainsi. Bon. Alors, le contexte intérieur. C'est vrai que cette idée de loi a été très mal perçue dans notre mouvement, dans la mesure où, comme vous savez peut-être, le mouvement de libération des femmes était très anti-légaliste, très opposé à tout ce qui était structure, institution. La Ligue a fait très mauvais effet en se dotant donc de statuts, en se faisant association 1901, en ayant une présidente, en plus une présidente très connue, Simone de Beauvoir, et en plus en se mêlant de demander une loi. Mais peu importe, pour nous, le fait de demander une loi n'était pas du tout incompatible avec la radicalité de notre propos. Il n'y avait pas pour nous antinomie entre être radical et révolutionnaire et se donner les moyens d'arriver à notre but. Alors il est vrai que aussi nous avions dans l'idée de renverser le système, je cite les paroles de l'époque, mais nous voulions nous donner les moyens de le faire, c'est-à-dire comment renverser ce fameux système, comme ça en soufflant dessus. Non, pas vraiment. Alors, cette loi, donc, était un instrument, un outil d'action contre ce que le système secrétait de plus insupportable à nos yeux, ces images dévalorisantes des femmes. Et voilà comment la loi, pour nous, nos copines juristes nous disaient, mais il y a ce qu'il faut dans l'arsenal juridique, il suffit de l'employer. Mais malheureusement, personne n'y recourait à cet arsenal juridique. Donc, nous avons voulu utiliser l'aspect symbolique de la loi, pour susciter un débat public autour de ce mot fraîchement débarqué dans la langue, le sexisme. Le mot sexisme est apparu autour des années 70 dans le dictionnaire. Donc on voulait susciter, 72, susciter un débat autour de ça. Non. Et d'ailleurs, le fait que Le Monde ait publié l'article montre bien qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de résistance avérée. Et nous avons un professeur de droit, Jean-Jacques Dupeyron, qui a soutenu notre loi, qui a écrit un ou deux articles dans Le Monde pour la soutenir. Alors voilà donc, si vous voulez, l'idée qui a présidé à la création de cette loi, parce que, si vous voulez, nous avions un petit peu un credo qui se résume dans une phrase de Lacordaire et qui dit « Entre le fort et le faible, c'est la loi qui opprime... Non, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. » Et nous avons fait, sous la Ligue du droit des femmes, ça a été notre axe, toujours recourir à la loi comme liberté pour la dominer. Tout ce qui est enlevé à la coutume, tout ce qui est pris sur la coutume, on règne la loi de la jungle, c'est favorable à la dominer et ça va contre le système de domination, pour aller vite. Alors, bon, il y a eu plein de péripéties que là, vous connaissez peut-être, en particulier Rudy a repris en 83 cette loi avec le scandale qui a suivi. Et que reste-t-il de nos amours 30 ans après? Pour ma part, je trouve que nos amours ont été bien caricaturés. J'ai écrit un article qui va peut-être paraître dans Le Monde qui s'appelle « Requiem pour une loi ». J'estime que par rapport à notre idée de départ, et là je tiens à dire que si nous avons pris la loi antiraciste comme modèle, c'était pour aller vite. C'était parce que nous n'étions pas juristes et nous n'avions pas le temps de réfléchir à bâtir une loi propre. Nous avons pris la loi antiraciste parce qu'elle existait, parce que je me suis dit pourquoi pas ajouter le mot au sexe. Mais évidemment, on peut faire mieux. Ça, j'en conviens. Alors, longtemps après, je suis navrée de voir que le gouvernement Raffarin vient de voter un espèce de fourre-tout où on amalgame l'homophobie, le sexisme, éventuellement le handicap, si j'ai bien compris. Voilà. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, cet amalgame est préjudiciable aussi bien à l'homophobie qu'au sexisme. Il crée une confusion dans l'esprit. Les gens n'y s'y retrouvent déjà pas. Alors, si en plus on mélange tout comme ça, ils vont s'y retrouver encore moins. Et je pense qu'évidemment, ce n'est pas délibéré dans l'esprit du législateur, mais le sexisme est quelque chose de si fondamental, de si grave. Il est tellement fondateur de notre civilisation que ce n'est pas un hasard que cette loi, cette espèce d'avorton, ait été votée. Parce qu'effectivement, à mon avis, le sexisme est un symptôme. C'est un symptôme d'un grave dysfonctionnement de notre civilisation qui se caractérise par une séparation pathologique entre les sexes, pathologique, j'ai pas peur du mot, la hiérarchisation qui en découle. Donc, cette manie d'assigner à chaque sexe, et par conséquent à chaque catégorie, une place stricte qui équivaut à une prison, fait le malheur à peu près de tout le monde. Et interpeller cette véritable tragédie, parce que c'en est une pour beaucoup de gens qui ne se sentent, qui ne se casent dans aucune de ces catégories, essayer d'interpeller cette tragédie, c'était très sérieux et très important. Il fallait commencer, il fallait laisser au sexisme sa place, fondatrice de toutes les autres oppressions, à mon sens, d'où découlent toutes les autres. Et c'est pour ça peut-être qu'on a interpellé le racisme avant d'en venir au sexisme. Si vous voulez, le sexisme, c'est comme le cœur de l'oignon du patriarcat. Et évidemment, on va l'atteindre in fine, hein, on commence par les couches extérieures, et puis après, on atteint le cœur. Alors voilà, je déplore que ça se soit passé comme ça, mais peut-être certains trouveront que ça vaut mieux que rien. Voilà.
Voilà, pardon, excusez-moi. Donc vous êtes en train d'entendre la retransmission d'un débat qui s'est tenu hier soir dans le 13e arrondissement de Paris. Une loi antisexiste, pourquoi faire? Donc après avoir entendu Anne Zelinski, vous allez pouvoir entendre Maya Sordus de la Coordination Nationale pour les Droits des Femmes et qui va revenir en fait sur les enjeux et le contenu politique du projet de loi gouvernemental en ce moment.
Parole à Maya Sordus, qui est une des porte-parole du collectif Droits des Femmes, et elle dit tout bas, je vais peut-être pas dire ce que j'avais prévu de dire, donc je sais pas du tout.
C'est ce que je vais dire, mais je sais. Donc voilà. D'abord, je tiens à dire, et là je suis en accord total avec ce que vient de dire notre amie, c'est tout simplement. D'abord, c'est un ersatz. Mais là où il faut insister sur le fait que cet ersatz est imposé. C'est-à-dire qu'il y a une directive européenne qui impose la mise en place d'une structure et d'une haute autorité de lutte contre les discriminations. Chose qui est en débat en France depuis environ un an. Et c'est AID qui a été à l'initiative de la mise en place d'une structure large, à laquelle d'ailleurs le collectif Droits des Femmes a participé, et c'est d'autres camarades, moi j'y suis allé un temps, mais surtout d'autres camarades qui assument ça. Le projet avait une certaine ambition, mais alors le problème est de savoir même sur le fond si on est d'accord, et là je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, je pense qu'on ne peut pas, dans cette haute autorité de lutte contre les discriminations, on met tout au même niveau. C'est-à-dire qu'on a, alors qu'on sait parfaitement, effectivement, que les rapports de domination hommes-femmes sont structurels et sont au début, au départ, et on sait qu'elles sont aussi, elles s'ajoutent. Les femmes cumulent tous les handicaps. tout. C'est-à-dire qu'on peut être femme, c'est à la fois... Il y a la race, il y a l'âge, il y a les handicaps de tout type, etc. Je ne vais pas faire la liste. Donc, de ce point de vue-là, le problème se posait de savoir si, effectivement, ça avait un sens de participer même à la mise en place de cette structure. Nous avons opté pour y être, mais d'une part, moi je pense que ça ne va pas, ce n'est pas possible. Même si ça avait été quelque chose d'un peu plus ambitieux que ce que nous avons, parce que dans tous les cas de figure, la structure mise en place par ce gouvernement, qui de toute façon, on est habitué, hein, quand ils ne nous enlèvent pas tout, ce qu'ils nous ajoutent, c'est le moins qu'on puisse dire tout à fait. 40, c'est scandaleux, je veux dire, c'est prendre les gens vraiment pour des imbéciles, ou penser effectivement, ou espérer qu'ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus le rapport de force, ils n'ont plus les moyens de faire autre chose. C'est ça aussi, on est un peu dans un contexte qui n'est pas très bon. Et je dois dire que, de ce point de vue-là, non seulement, si on accepte le cadre défini au départ, il n'y a pas de moyens. Ils ont mis en place, parce que l'idée, c'était quand même que les associations en tant que telles puissent jouer un rôle actif là-dedans. En réalité, c'est 11 personnalités, si je ne me trompe, qui sont désignées aussi bien par le président de la République, les présidents des chambres, etc., etc. Donc, quelque chose de tout à fait institutionnel au plus haut niveau. Et vous comprenez bien à quel point ça peut représenter en aucun cas nos revendications, nos luttes, etc. Puisque nous sommes pas représentants, ni nous, ni les autres. Et d'autre part, nous ne pouvons pas faire confiance à nos amis des différentes associations, etc., de porter nos revendications parce que ce n'est pas la priorité. Et si ce n'est pas même antagonique avec leurs intérêts, de façon plus ou moins consciente. D'autre part, les moyens mis en œuvre sont dérisoires. Il est question de 10 millions d'euros, mais c'est plus national. En fait, tout ça est déplorable. Mais ce qui a précédé, c'est pour ça que je ne comprends pas, je ne veux pas, dommage, ils ne sont pas là, pourquoi la LGBT s'est réjouie. La LGBT a travaillé pendant plusieurs années, justement, sur un projet de loi anti-homophobe. Et alors, il y avait eu ce projet, on avait été rajouté par ricochet, on a été tout à fait conscients, on s'est réunis, et là je rends hommage vraiment à nos amis qui devraient peut-être être à ma place, de chaînes de garde, qui ont été à l'initiative de la mise en place d'une structure justement de débat là-dessus. Alors, notre position, c'est même si tout cela est carent, même si on a été rajouté par ricochet, il ne faut pas être absent du débat. C'est une façon de poser nos revendications. D'autres, entre autres, les copines de la structure de l'AVFT étaient sur une autre position, d'un rejet total, considérant même dangereux de mettre le doigt dans le monde. C'est des positions, elles sont respectables, pourquoi pas. Bon, c'était pas la nôtre, et ça reste pas la nôtre, parce que nous faisons partie des gens qui, quand il y a un débat qui concerne les femmes, nous pensons que nous ne pouvons pas mener une politique de la chaise vide. D'une part, il y a eu ça, d'autre part. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que ce gouvernement a eu même l'outrecuidance, parce qu'on pensait à un moment donné qu'effectivement, ils étaient prêts à accorder un truc sur l'homophobie, en contrepartie du fait qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître le mariage. Alors c'était donnant-donnant, c'était pas cher. Bon, par ailleurs, moi je tiens à vous dire, moi je fais partie des gens qui considèrent, si les camarades homosexuels désirent que le mariage, parfait, mais ils ne vont pas le subvertir en le demandant. Et pour nous, c'est plutôt, ça prouve à quel point nous ne sommes pas dans une période de conquête, nous sommes dans une période de régression, etc., et d'adaptation au système tel qu'il est. C'est ça que cela signifie, ni plus ni moins. Et c'est vrai que la chose a été aggravée par le sida, c'est vrai que les copains, surtout hommes homosexuels, se sont retrouvés dans une situation absolument épouvantable autour de la fin du sida, avec la mort surtout dans la période antérieure. Bon, voilà. Alors, je ne comprends pas. Alors, tout d'un coup, ce gouvernement avait promis, et ils ont eu l'outrecuidance d'attendre que, effectivement, la Gay Pride, la marche des fiertés lesbiennes, bi et trans, soit passée, parce que ce monsieur Chirac, vraiment, l'outrecuidance n'a pas de limite. C'était le dimanche soir qui a suivi la marche, qu'il a effectivement annoncé l'ordre du jour de la session extraordinaire, ça ne figurait pas. Et en réalité, il n'y avait pas de quoi se réjouir et se féliciter du fait qu'ils aient retiré le projet. C'est parce que même ça, c'était trop. On ne parle pas du côté femme, hein, on parle de l'homophobie. C'était trop, et ils ont accepté de l'intégrer dans le cadre justement de la haute autorité, c'est pas cher, etc. Voilà ce que je tenais absolument à dire. Alors nous, notre réaction a été, depuis longtemps, et là nous rejoignons nos amis de l'AVFT, nous sommes, on en a marre des mesures, on en a marre des petites mesures, on en a marre de ces faux semblants, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous étions battus, nous avions même une coordination nationale. Au moment du projet Roudy, nous étions battus, nous avons fait une coordination nationale pour nous battre pour obtenir ça. Et il faut dire que le rejet était tel que même le groupe socialiste, c'est là que ça a été bloqué, c'est même pas mis en débat, en séance, rien du tout. Ça a été bloqué en amont. Donc, première chose. D'autre part, ce que je tenais à dire absolument, c'est que je ne comprends pas comment se réjouir, puisque ça, c'était trop. Nous avons dit d'entrée de jeu que nous voulions rééquilibrer, mais nous avons dit aussi, et nous maintenons, que nous voulons une loi cadre. C'est vrai que l'Espagne montre la voie. Bon, on peut être d'accord, pas d'accord avec la loi. Le problème n'est pas là, c'est que pour la première fois, on a une loi, là, et dans laquelle, il faut voir que l'article 1er, parle de domination masculine. Vous vous imaginez notre chambre de députés voter à l'unanimité. Cela ne signifie pas que la navette, etc., qu'à l'arrivée, il y avait ce qui avait été demandé. Mais ce qui est exemplaire, et en France, on est loin du compte, c'est qu'on sent, les politiques ont travaillé avec la société civile, ont travaillé avec les féministes. C'est comme ça qu'on peut imaginer qu'effectivement cette loi a existé. Je terminerai sur le fait que, dans la campagne que nous avons menée, le collectif droit des femmes, avec les différentes composantes, etc., nous avons décidé, notre grande revendication, elle figurait dans la banderole de tête, c'était contre la violence faite aux femmes, de poil, une loi cadre. Et le problème, aujourd'hui, nous sommes à la veille, c'est demain, il y aura une réunion de bilan, aussi bien des 6 heures que de la manifestation elle-même. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est effectivement la loi cadre, et non pas aussi des choses là, tout à fait 40 qui sont en train de se mettre en place, qui sont au niveau du Sénat, il y a une proposition de loi qui a été élaborée par un dénominé Chou et d'autres du Parti Socialiste, mais qui a l'air vraiment ridiculement limitée. Et parce que le problème, moi je pense, c'est qu'il faut essayer d'aller très loin. Et ça ne se fera pas un jour, cette affaire-là, de travailler, de mettre en place un groupe de travail, avec à la fois des juristes, des associations qui luttent particulièrement sur les violences et d'autres, et les politiques. Et voir, c'est tout un processus qui risque d'être long, complexe, etc. Mais je pense que c'est une des conditions pour essayer de déboucher sur quelque chose qui ressemble à des revendications qui pourraient être porteuses de nos aspirations. Merci de votre patience.
En fait, je crois que Maya, si tu pouvais juste ajouter pour que ce soit très clair. Concrètement, cette haute autorité de lutte contre les discriminations, est-ce que les associations vont pouvoir s'en saisir? Est-ce qu'on va pouvoir aller se plaindre chez ces gens-là? Ou est-ce que c'est archi-institutionnel et on n'aura même pas le droit d'entrer par la porte? Enfin, comment ça se passe concrètement?
Moi, je ne sais pas très bien comment ça va se passer, parce que ce qui est paru est apparu paraît extrêmement elliptique. Et ne permet pas de juger dès à présent exactement quelle va en être la portée, mais on peut avoir des craintes très importantes. Ça ressemblera à une institution, une structure de plus. Vous savez, il existe des tas de ministères, il existe des tas de structures diverses, des hautes autorités diverses. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir y recourir quand il y a des problèmes et de pouvoir y recourir, mais faire aboutir? Voilà, c'est tout. Je pense ni plus ni moins. Et il ne faut pas oublier que nous avons un gouvernement particulièrement réactionnaire.
Maya Surdoute du CNDF, et donc on va continuer d'entendre la conférence de hier soir sur une loi antisexiste, pourquoi faire, avec un exemple concret sur la pornographie, avec Monica Karboska d'Alternative Féministe.
Bien concret, on va aborder la question de la pornographie avec Monica Karbowska, qui a été militante à Mixité, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'elle va intervenir ce soir. Elle a trop insisté là-dessus. Mais enfin, elle connaît bien le réseau féminin féministe, puisqu'elle était à Mixité, elle a été à la Meute, et elle est maintenant au réseau d'alternatives féministes, et qu'avant ça, en Pologne, elle a milité contre l'interdiction de l'avortement, en vain, mais ça, c'était pas complètement perdu. Et donc, Monica, cette loi antisexiste, est-ce qu'elle va servir, enfin, cette loi antisexiste, disons, un projet de loi antisexiste, ou alors cette haute autorité en l'état, peut-elle être utile dans le domaine de la pornographie ?
Donc, je pense pas que le projet tel qu'il est puisse être utile, parce qu'il faut une vraie loi qui punit les injures et l'incitation à la haine, notamment, à la discrimination à la haine. Moi, je vais un peu parler donc de l'utilité, donc de à quoi servirait, comment cette loi, une vraie loi antisexiste, pourrait servir à lutter contre la pornographie. Donc, je vais me baser sur un atelier que j'ai effectivement animé à Mixité en 2002-2003, où on a analysé la pornographie, les images pornographiques. Mais effectivement, je ne parle pas au nom de Mixité, qui n'a pas encore d'opinion là-dessus. Donc, c'est plus par rapport à ça. Alors, donc, on a défini la pornographie comme une production commerciale et une diffusion de représentations non simulées de la sexualité humaine, dont le but est d'exciter le spectateur et dans laquelle un genre domine un autre. Bon, il peut aussi y avoir une personne du même genre qui domine une personne du même genre, mais plus là, on parle d'un genre qui domine l'autre. Et le ressort de l'excitation sexuelle réside justement dans cette domination. Les féministes radicales allemandes et anglo-saxonnes parlent de façon lapidaire d'une érotisation de la domination. Donc cette domination des hommes sur les femmes dans la pornographie passe par une idéologie très sexiste. Donc ce sont les injures sexistes très abondantes dans tous les films et tous les textes porno. Les femmes sont traitées à longueur de temps de salope, putain, cochonne, chienne, pétasse, suceuse, etc. Je risque peut-être de choquer certaines personnes en disant les choses de façon explicite, mais par moment, moi j'ai l'impression que si on parle de la pornographie, il y a toujours une confusion comme quoi ce serait de l'art, etc. Donc parfois je vais citer des choses un peu brutales pour qu'on sache, pour que ce soit très clair de quoi ça a l'air. Donc dans la plupart des films et des textes pornographiques, les hommes manipulent les femmes comme des objets, leur donnent des ordres, alors que les femmes sont représentées comme obéissant aveuglément et constamment. Ça peut être des phrases comme « suce-moi, mets-toi là, pose-toi là, salope, qu'on te baise ». Et c'est comme ça que les hommes parlent à leurs partenaires sexuels dans les films porno. C'est comme ça, à longueur de pellicule. Les pratiques sexuelles effectuées dans les films et les images pornographiques ne correspondent en rien à des pratiques sexuelles qui donnent du plaisir aux femmes, mais plutôt des pratiques qui causent des douleurs et des humiliations, comme l'éjaculation faciale, la double pénétration, la sodomie violente par plusieurs hommes, c'est quasiment dans 100% des films quand même. Donc on est plus dans le registre de l'érotisme, de l'art, c'est vraiment quelque chose de très brutal. L'incitation au viol et à l'inceste est très fréquente. Les femmes sont représentées alors comme disant oui à toutes les pratiques sexuelles et toutes les relations, sauf si leur nom est destiné à être brisé dans un viol. Alors là, dans ce cas, bien sûr, il s'agit de montrer que les femmes désirent être violées. Alors moi, je pense qu'une loi qui pénaliserait l'injure et la diffamation sexiste permettrait déjà de faire disparaître les injures sexistes qui sont le moteur de base des films pornographiques, notamment de faire disparaître le concept de salope, puisque c'est sur ce concept-là que sont basés les scénarios pornographiques. Par exemple, un scénario fréquent, c'est qu'un homme décide de prouver à un copain que toutes les femmes sont des salopes. Donc il va accoster une femme dans la rue. Après, il y aura les scènes de pénétration pornographique, et cela permettra de valider le fait que toutes les femmes sont des salopes. Donc, vraiment, là, il y a un concept, l'injure est quand même le concept central. Je pense aussi qu'une loi antisexiste permettrait d'attaquer enfin les films qui comportent l'incitation au viol et à l'inceste, puisque ce seraient des incitations à la haine, quoi, en fait. Donc, j'espère aussi que ce qu'elle permettrait de s'attaquer aux images humiliantes, comme l'éjaculation faciale. Je pense que ça ne sera pas facile et que ça devrait passer par des procès aux producteurs, puisque la pornographie est aussi pleine d'images racistes. Par exemple, les Noirs, qui soi-disant ont de grands sexes. Alors là, ça c'est très fréquent aussi. Et il n'y a jamais encore personne qui s'est ému de cela, hein, ni dans aucune association antiraciste. Hein, voilà. Donc, je pense que ça ne sera pas facile. Alors, je pense aussi qu'il serait utile de s'attaquer aussi aux magazines dits masculins, comme Max, FHM, Maximal, donc des magazines qui sont vendus en kiosque à n'importe qui, sans limite d'âge. Alors leur unique fond de commerce, c'est quand même le sexisme. Leur unique ressort de vente et leur unique sujet, c'est de démontrer que les femmes ne sont que des corps à consommer, qu'elles n'ont ni cerveau, ni volonté, ni rien d'humain d'ailleurs. Alors souvent, cette idéologie se manifeste par le biais d'images de femmes nues, et ces images sont accompagnées de textes et de formules sexistes. Par exemple, il y aura des articles qui vont démontrer que les femmes sentent mauvais de nature. Ou bien il y aura des articles qui présentent les femmes comme des prostituées, qui gagnent leur vie en vendant leur sexe et qu'elles sont toutes achetables, il n'y a que le prix qui varie. Hein. Il y aura des articles qui vont s'intituler « Combien coûte une femme ?» par exemple. Il y a aussi bien sûr les associations fréquentes entre les femmes et la viande, ou les femmes et les animaux, les chiens et les cochons de prédilection. Et j'espère que ça aussi, on pourrait le faire interdire par une loi antisexiste. Il y a aussi les éternelles comparaisons entre les femmes et les voitures. Donc voilà, moi j'ai vraiment espoir que juste cette loi-là, bien sûr, ça changerait rien. Si on après, il faudrait bouger quoi. Il faudrait en fait susciter un débat public sur le sexisme dans la pornographie. Ce débat n'a jamais encore eu lieu en France. Les femmes hésitent à parler de ce sujet, et je dirais même que les femmes, y compris les féministes, hésitent à regarder la réalité de ces terribles images. Les femmes, tout simplement, ne veulent pas voir ce que les hommes regardent, en fait. Et c'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant. On voit des choses atroces, notamment l'incitation à l'inceste, des adolescentes qui sont photographiées, les sexes exposés dans un décor de chambre d'enfant. Enfin, c'est très fréquent, et il n'y a jamais encore personne qui s'est ému de ça. Donc, j'espère que là, enfin, on pourra faire quelque chose contre cela. Et je pense que parler publiquement de la pornographie, ce sera vraiment briser un tabou. Parce qu'on vraiment, on n'a pas envie de regarder cette sphère déplaisante de la vie sociale, alors que ce sont quand même, si ce sont des milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a quand même énormément d'hommes qui regardent ces images et qui sont influencés par elles d'une façon ou d'une autre.
Est-ce qu'il y a des films pornographiques où il n'y a pas toutes ces horreurs?
En France, il n'y a aucune étude qui a été faite à ce sujet, mais je peux me baser, on s'est beaucoup basé sur les recherches de Richard Poulin, donc, qui est sociologue canadien, qui avec son équipe a analysé 10 000 films pornographiques de tous les pays, et quasiment toutes les images étaient comme cela à des degrés divers. C'est-à-dire que je dirais que la double pénétration, l'éjaculation faciale, c'était pas la règle dans les années 80, c'était la pénétration vaginale. Mais maintenant, plus on avance, plus c'est brutal, plus l'âge des entre guillemets actrices est jeune. Et je pense que quasiment, pour moi, c'est clair qu'il y a des liens avec le milieu prostitutionnel. D'ailleurs, ils le disent aussi les producteurs. Hein, dans des magazines spécialisés comme Haute Vidéo, on peut lire comment ils trouvent des filles en Hongrie, etc. Quoi. Enfin, ils le disent, ils s'en cachent même pas. Il n'y a pas eu d'étude qui a été faite en France. Ça serait bien d'en faire une. Parce que peut-être que tous les films ne sont pas comme ça. Mais alors, c'est vraiment une infime minorité, je pense. Hein, parce que...
Juste une question. Est-ce que tu peux dire exactement de quel type de produit porno tu parles là? Est-ce que c'est les films qui passent forcément sur le câble, il suffit d'avoir le câble pour au-delà de 11h30 du soir, on trouve rien? C'est quel type de publication?
Alors le vidéo au club du quartier, on va dans on emprunte n'importe quelle cassette et vous verrez ce que je dis. Franchement, c'est... Je pense même pas que ce soit à des degrés divers, parce que nous on a fait ça, on a fait une analyse comme ça, une recherche au hasard. On est allé voir, et puis voilà, on a vu ce que les gens y regardent. Ben, c'est ça qu'ils regardent. Je peux vous citer d'ailleurs, j'ai toutes les analyses des films, plein de citations épouvantables. Donc voilà. Donc je prétends pas qu'on a vu tous les films, mais en même temps, moi je me dis, si dans un comme ça, vidéoclub de quartier, il y a ça et que c'est accessible, bon, ben, je veux dire, c'est déjà suffisamment grave, quoi. Enfin, même si c'est pas 100%, c'est suffisamment grave. Même si toutes les femmes ne se font pas traiter de salopes, c'est suffisamment grave s'il y en a un certain nombre qui sont insultées.
Voilà, c'était donc Monica Karboska de Alternative Féministe. Donc elle revenait sur l'exemple de la pornographie dans le cadre d'un débat donc sur faut-il une loi antisexiste et pourquoi faire. Donc là on va continuer à entendre les intervenantes. Donc il va y avoir toute une série d'interventions. Donc Monica Karboska qui va parler du contrôle de la publicité. Ensuite on réentendra Anne Zelinski qui parlera des images et des publicitaires et ce qu'elles véhiculent pour les femmes. À nouveau Monica Karboska qui parlera de sexographie opposée au terme de pornographie. Elle expliquera ce qu'elle entend par là. Ensuite nous entendrons Liliane Candel qui reviendra sur l'hétérosexisme qu'impose le discours publicitaire. Et une dernière fois nous entendrons Monica Karboska. Donc voilà.
Oui, moi je fais partie aussi de la mode contre la publicité sexiste. J'ai parlé beaucoup de la pornographie, mais effectivement, non, on a besoin d'une loi antisexiste contre la pub sexiste aussi, hein, puisque le BVP, qui est quand même un syndicat professionnel de publicitaires, Non, il ne retire pas tant les loups que ça, quoi. Enfin, c'est, il faut vraiment faire beaucoup. Il faut qu'il y ait des milliers de personnes. Et voilà, quoi. Donc, c'est non seulement la meute demande donc cette loi, mais aussi la constitution d'une commission de validation avant la publication des publicités. Une commission qui serait composée pour moitié des professionnels et pour moitié de la société civile, donc des associations. Voilà, donc c'est, oui, effectivement, une forme de contrôle. Mais la publicité, ce n'est pas un art, ni en réalité quelque chose d'expression. C'est partie du marketing, en fait. Donc, c'est quand même un outil de vente. Et là, je pense pas ça devrait être un peu encadré, quand même, en tant qu'outil de vente qui nous influence. Et j'ajouterais que pour moi, la pornographie est très proche de la publicité sexiste. Plus proche que du cinéma, par exemple. Puisque là, la pure, c'est ce que vraiment on s'est rendu compte au cours de l'atelier. À mixité, c'est que dans la pornographie, on vend par les mêmes procédés, notamment dans les magazines masculins, on vend directement le corps de la femme, l'image donc de la femme, du corps de la femme, au lieu de vendre l'objet en présentant la femme comme un pape en fait. Mais que c'est quasiment les mêmes positions, les mêmes comment dire, les mêmes attributs, les mêmes le même décor, etc. quoi. Donc pour moi finalement, ce débat pornographie en tant que cinéma, c'est dépassé quoi. C'est vraiment c'est de la vente, c'est de la vente, et il s'agit de faire de l'argent, donc on n'est plus du tout dans le registre de l'art.
Oui, non, mais les choses, c'est pas comme ça, c'est pas l'un ou l'autre. C'est vrai que le sexisme est quelque chose, de, comme disait Liliane, c'est tout l'Occident qu'il faut mettre en cause, donc on est bien d'accord, et il faut bien prendre la pelote par un bout, hein, la pelote, il faut bien tirer les fils. Alors bien on fait rien, bien tout ce qui est tout est bon à prendre. On peut effectivement, l'un n'empêche pas l'autre, avoir ce croupion de loi et puis faire une campagne. Et puis il faudrait que les jeunes femmes se mobilisent. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de gratification négative dans les images que leur bazarde la pub. C'est ça le drame, c'est qu'elles se sentent confortées, rassurées, tout en souffrant mille morts, parce que jamais elles ne seront comme cette belle femme qu'on leur appelle, enfin bref, le ratiboisé, là, dont on a gommé toutes les rides, tous les... Elles ne seront jamais comme ça, mais c'est le rêve qu'elles poursuivent, un espèce de rêve masochiste. Alors voilà aussi, il y a la responsabilité individuelle, bon sang, l'État ne peut pas tout faire, hein. Il faut que chaque mère, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, les hommes aussi, d'abord, prenne conscience de cette chose-là. C'est pas évident, tout le monde. On fait du sexisme comme M. Jourdain faisait de la prose. Hein. Et même nous, on est sexistes. Moi, je me surprends à bazarder des propos ou avoir des réflexes sexistes. Je ne suis pas indemne. Je baigne dans cette merde. Et alors donc, première chose, faire une espèce de prise de conscience individuelle, essayer de rayonner autour de soi, ne se refuser aucun moyen, mais la tâche sera longue, la tâche sera longue. Moi, j'ai mis des années, comme toutes les femmes d'action, je suis partie avec cette loi d'une façon un peu fruste. Hein. C'est vrai que c'était un peu fruste comme demande, mais l'action, ça vous pousse à être sommaire. Vous ne pouvez pas faire dans la dentelle. Et plus le temps passe, et plus je m'éloigne, si vous voulez, je m'aperçois de l'étendue du phénomène, et je me rends compte, je rejoins la Liliane, avec qui nous avons eu auparavant quelques dissensions, maintenant nous nous rejoignons, parce que le sexisme est fondateur de la civilisation occidentale. C'est cette espèce de schisme, hein, entre hommes et femmes, c'est un véritable schisme créé qui est à l'origine de tout ça. Et alors, pour en finir avec ça, il faudra au moins encore 3000 ans, quelque chose comme ça. Donc, armons-nous. Non, facile, hein. Il faudra des centaines d'années. Hein. Bon, non, mais soyons raisonnables. Alors moi, par exemple, je suis ravie que vous parliez de pornographie. Je suis une des rares féministes dans ce pays qui, depuis des années, me suis battue contre la pornographie, et y compris de la part d'un petit camarade, eu toujours des réflexes, bon, mais comment ça se fait, ouais. Qui baignait elle aussi dans la gauloiserie bien nationale, n'est-ce pas? Alors moi je ne sais pas si c'est parce que je suis d'origine étrangère, mais moi ça m'insupportait grandement, hein, cette pornographie. Et il m'est arrivé de m'allier avec des catholiques contre la pornographie, parce qu'eux au moins ils me soutenaient. Voilà, ben oui, des catholiques modérés, c'est comme ça. On prend ses alliés, là on les trouve, hein. Juste parler de rebondir parce que moi j'ai pas trop réfléchi à la question. Je sais qu'il y a une énorme traite de femmes et d'enfants et qui servent à des fins prostitutionnelles et de pornographie. Et voilà quoi. Donc effectivement, ça c'est le capitalisme.
actuelle. Ceci dit, je voulais réagir par rapport à l'idée de police des mœurs, police sexuelle, on interdirait la sexualité, parce que c'est souvent ce qu'on a reproché, ce qui a été reproché aux féministes quand elles s'attaquaient à la pornographie. Alors à mixité, il y a quelqu'un qui a une idée que je trouve géniale, c'est de dissocier la pornographie de quelque chose qu'on appellerait la sexographie. La pornographie, ce serait ce que le mot dit, c'est-à-dire représentation de prostitution, donc en fait image de domination, enfin d'un genre dominant l'autre, alors que dans la sexographie, ce serait une représentation de la sexualité, à but d'excitation, toujours, hein, on est dans l'art, on est dans la consommation, sans ressort érotique de domination. Voilà, donc dès l'instant où on emploie un autre mot pour désigner une autre chose, on sort du débat pro ou contre pornographie. On voit que pornographie égale sexisme et que sexographie égale image sexuelle excitante, etc. Et que voilà, qu'il resterait peut-être à inventer, effectivement. Je sais pas, j'en sais rien. Le seul truc, le plus important pour moi, c'est d'éliminer le sexisme. Et la pornographie est intrinsèquement sexiste.
On parle depuis des années, depuis 30 ans, depuis le sexisme. Et il me semble, de toute façon, la pub, elle a changé. On n'a plus la fameuse femme à quatre pattes de vigne. Nous étions avec graffité, on avait tourné cette affiche,
on va loin, on va pire.
Alors, il me semble que la publicité aujourd'hui, et on n'en dit pas assez, est principalement et fondamentalement hétérosexiste. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas d'image dégradée de la femme, il y a une espèce d'évidence qui est assénée dans pratiquement chaque affiche, chaque campagne de pub, à savoir qu'une femme s'est faite pour aller avec un homme. Que, de toute façon, le bonheur absolu, c'est un couple avec, si possible, un chien, un canari et quelques enfants. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, que les féministes ne disent pas assez. C'est que ce à quoi on est assigné, sauf quand il s'agit de battre, frapper, lier Francine, c'est de toute façon à l'hétérosexualité obligatoire. Et je suis surprise que les groupes gays le disent, mais je pense que ça serait aussi à nous de dire, écoutez, même dans les publicités les plus apparemment acceptables, non, ce que vous nous proposez, c'est l'assignation hétérosexuelle. Et bon, voilà, je pense que c'est un texte qui n'est pas suffisamment sorti.
Je suis convaincue, persuadée, je sais que si on est victime de violence, on n'a pas le choix après, quoi, puisqu'on a toutes sortes de séquelles psychologiques et qu'il faut beaucoup de temps pour les surmonter. Moi, personnellement, je trouve que le féminisme est une arme qui aide beaucoup là, dans ce domaine, puisque ça remet les choses à sa place. Quoi. Effectivement, un des ressorts de la violence, je sais que c'est le concept de salope, justement, donc, c'est-à-dire de la femme qui aime être violée, séduite, humiliée, etc. Et voilà, quoi. Et donc, casser ce concept, ce serait peut-être un peu, déjà, d'une certaine façon, prévenir les violences. Sinon, je voulais répondre à Anne, parce qu'en fait, moi, j'ai un peu du mal avec le problème de la pédagogie vis-à-vis des hommes. Moi, je trouve que c'est très difficile de se dire que moi, je vais éduquer les hommes. Voilà. Parce que, pourquoi ? Parce que la pornographie influence très fortement l'inconscient. Et j'ai vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui consomment la pornographie qui en sont plus ou moins dépendantes. Et franchement, je ne sais pas comment faire avec ça. Comment je peux, par exemple, prendre l'image pornographique et la détourner comme vous l'avez fait à l'époque avec cette image? C'est plus possible. Je vois pas ce qu'on peut faire avec une image d'éjaculation faciale, par exemple. Comment on peut détourner ça, quoi? Enfin, c'est, et pourquoi je le dis? Parce que je sais que c'est, moi je crois que la situation est bien plus grave, quoi, en fait. On peut même plus se servir des outils dont vous êtes servi à l'époque. Il faut être beaucoup plus offensif. Et voilà, quoi. Donc, offensif, bon, c'est pour ça que pour moi, c'est une loi serait vraiment importante, puisqu'on pourrait montrer ce qu'il y a de terrible dans les images pornographiques telles qu'elles sont actuelles. Et aussi pourquoi je pense que c'est beaucoup plus difficile, parce que donc le RESAF anime un groupe de conscience féministe à la Maison des Femmes. Donc dans ce groupe, donc le réseau d'alternatives féministes, on a un groupe de conscience féministe qui se réunit. On parle beaucoup de sexualité. Et toutes les jeunes femmes sont loin de vouloir ressembler à des pubs sexistes. Alors là, absolument, il ne leur vient même pas ça à l'esprit. Par contre, elles sont très peur des violences, très peur des pressions dans la vie dite privée, dans la vie sexuelle. Elles en subissent. On a peur, quoi. Si on ne réagit pas, c'est pas parce qu'on est, que les images de la féminité, entre guillemets, nous plaisent, c'est parce qu'on a peur. Et c'est aussi pour cela que beaucoup de jeunes femmes ne veulent même pas regarder ce qu'il y a dans la pornographie. Parce qu'on préfère ne pas regarder, on préfère se dire le monde il est beau, il est gentil, je vais pas regarder ce qu'il y a derrière. Donc voilà, donc moi je pense que, personnellement, je pense que la loi est utile pour ça, quoi, pour qu'on ait nous plus de force.
Voilà, pour que la loi soit utile pour ça, donc c'était donc la fin de la retranscription d'un débat, une loi antisexiste, pourquoi faire, hier soir à Espace Marx, dans le 13e arrondissement de Paris.
Et ben voilà, cette émission se termine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. On vous parlera de Noël. Et Guillaume, à cette occasion, nous passera un disque de Tino Rossi. On reviendra sur la campagne contre les jouets sexistes avec Juliette, qui elle aura à Noël un aspirateur Fisher-Price. Et puis on parlera sûrement béton avec Jérémy, qui lui devrait avoir pour Noël une bétonneuse, si j'ai tout compris. Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. On vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao.